L'actualité des Alpes du Sud et de nouvelles nuits de fermeture pour les urgences de Manosque.
7 à compter de ce dimanche et toujours pour les mêmes raisons, pas assez de médecins urgentistes et une trop grosse activité.
Les lycéens de Briançon qui veulent raviver le souvenir du génocide rwandais.
En 1994, la population des Tutsis est massacrée, 800 000 personnes périssent. Le 7 avril est la journée de commémoration en France. À Briançon, des élèves en terminale ont travaillé sur cette période sombre de l'histoire rencontre.
Et puis on vous contera ce matin les histoires de l'univers.
Voyage au travers des étoiles avec le nouveau planétarium de Haute-Provence. C'est le plus grand du sud-est de la France et surtout le premier en Europe à vous proposer d'observer le soleil. Il ouvrira ses portes demain.
Les remparts de Mont-Dauphin renferment une véritable richesse.
Plus de 80 espèces d'oiseaux, 21 de criquets et de sauterelles, mais aussi 56 espèces de papillons. La faune et la flore traversent l'histoire. Dommage de ne pas en profiter. Du coup, le Centre des Monuments Nationaux travaille sur cette gestion des espaces verts et vous proposera la semaine prochaine de découvrir toutes ces espèces. Et puis, du côté de la météo, tout d'abord cet appel à la prudence en montagne avec un risque avalanche fort sur le massif du Champsaur et du Pelvoux. C'est marqué pour le Tabor, le Dévoluy, le Kéra, l'Embruné, Parpaillon et l'Ubaye. Vigilance donc face aux coulées de neige fraîche et de neige humide du côté de la couleur du ciel.
Alors quelques éclaircies encore ce matin sur nos deux départements et puis le ciel se couvre à nouveau dans la matinée, début d'après-midi avec des précipitations qui concernent tous les massifs. Les températures 10 à 16 degrés en vallée pour les Hautes-Alpes, ça ira de 14 à 19 sur les Alpes de Haute-Provence. Électrocardiogramme plat encore pour 7 nuits aux urgences de Manosque.
Depuis le début de cette année, le service est durement touché par des fermetures de nuit. Pas assez de médecins urgentistes, une activité Covid et hors Covid soutenue. Les urgences ne peuvent assurer la continuité. La décision a donc été prise de nouveau les fermer durant cette nuit de 18h30 à 8h30 le lendemain. Ce dimanche et lundi, urgence fermée donc. Et puis, de vendredi prochain à la nuit du lundi 18 et le vendredi 22 avril, le SMUR sera maintenu. Un affichage sera mis en place pour se rediriger vers Sisteron, Digne-les-Bains, Pertuis ou Aix-en-Provence. Face à cette situation, la direction de l'hôpital de Manosque indique qu'une communication a été réalisée auprès des tutelles, des élus et des professionnels de santé. Un coup dur, alors que c'était hier la journée mondiale de la santé, le maire de Fort-Calquier, David Géant, s'est d'ailleurs rendu à Pérol, en Provence, dans les Bouches-du-Rhône, afin de visiter Polmed. C'est une structure médicale qui soigne les patients sans rendez-vous et traite les urgences non vitales. Une piste intéressante pour l'édile afin de développer l'offre de soins à Fort-Calquier.
Eux ne veulent pas oublier. Des lycéens briançonnais ont ravivé la mémoire du génocide rwandais.
D'avril à juillet 1980, 800 000 Rwandais, hommes, femmes, enfants, principalement Tutsis, ont été massacrés. Depuis 3 ans, la France a décidé du 7 avril pour en faire la journée officielle de commémoration. C'était donc hier. 28 ans plus tard, cet épisode sombre de l'histoire doit résonner dans la mémoire collective, selon le gouvernement, et cela passe par l'éducation. Des élèves de terminale en histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques du lycée de Briançon ont donc travaillé pendant plusieurs semaines sur ce génocide des Tutsis au Rwanda. Daniel Gilbert est professeur au sein du lycée d'altitude de Briançon.
Il s'agit d'une commémoration officielle, c'est d'ailleurs quelque chose qui a été mis en œuvre par l'ONU et ensuite donc développé et repris par donc l'État français. Au titre de l'éducation nationale, nous sommes donc un service de l'État et l'État est tenu de nous a demandé donc de travailler sur ces thématiques comme sur d'autres. Les élèves sont associés aux manifestations du 11 novembre, du 14 juillet et aux diverses commémorations comme celle du mois de mars par exemple pour la guerre d'Algérie. Ça leur apporte une vraie réflexion sur les faits, c'est-à-dire qu'il y a un premier travail donc de recensement d'informations et à la suite de celui-ci, tout un travail de réflexion justement sur les événements, sur leur portée, tout à la fois leur portée symbolique mais aussi leur portée juridique, politique et géopolitique.
Et pour les élèves qui ont participé à ce projet, le devoir de mémoire est très important pour comprendre le monde d'aujourd'hui.
Les relations d'aujourd'hui, elles dépendent aussi de ce qui s'est passé auparavant, donc c'était important d'apprendre ça et de ne pas l'oublier, de commémorer donc en ce 7 avril.
Alors, à la base, c'est notre professeur qui nous a proposé, c'était sur la base du volontariat. C'est un thème qu'on avait déjà abordé au cours durant l'année. Et finalement, c'était pour pouvoir... Moi, c'était dans une ambition d'agrandir ma culture générale sur l'histoire, étant passionné d'histoire. Et après, ça nous a permis aussi de mieux comprendre les conflits qui étaient en dehors de la France.
Je pense que c'est la mémoire, le devoir de mémoire que nous devons tous avoir en tant que jeunes. Et l'importance de faire passer un message et de continuer à pour ne pas oublier.
Un dossier signé pour Alpe 1, Thibaut Durand. Dans le même temps et dans un tout autre sujet, la police nationale a dispensé hier aux parents d'élèves des écoles de Briançon une information à le porter sur le harcèlement et les dangers des réseaux sociaux.
Dans le reste de l'actualité de ce vendredi, les quais de gare qui sentiront bon les Hautes-Alpes à Marseille.
Gare de Colombes et Serres sont à l'honneur à la gare Saint-Charles de Marseille. Ces deux petites cités de caractère ont été sélectionnées dans le cadre de l'exposition France, patrimoine et territoire d'exception. Une exposition qui se décentralise puisqu'elle avait débuté à Paris. Souvenez-vous, c'était au Jardin du Luxembourg. Là aussi, le territoire alpin était bel et bien présent à travers une photographie de Patrick Domaine de la maison Lesdiguières de Serres, le photographe qui a su capturer les ruelles de la cité médiévale de Serres et les magnifiques champs de lavande dominés par le village perché de Lagrange sur la commune de Garde-Colombes. De quoi voyager sans être monté dans le train, des clichés qui seront donc à découvrir à Marseille jusqu'au 30 avril.
Et on vous emmène en voyage à travers les étoiles et un peu plus près du soleil.
Saviez-vous que le plus grand planétarium du grand sud-est de la France était dans les Alpes d'Haute-Provence et plus précisément à Saint-Michel-l'Observatoire, une commune qui possède depuis 1998 le centre d'astronomie, un haut lieu de recherche du CNRS depuis 1936. Sa mission est simple, il s'agit d'accompagner le grand public et les scolaires dans leur compréhension de l'astronomie. Et là, on va désormais plus loin avec ce nouveau planétarium qui ouvre ses portes demain. Visite en avant-première avec Christophe Laurenceau.
Un dôme hémisphérique de 11,50 m de diamètre pour profiter des astres de jour et ainsi vous donner envie de revenir le soir pour observer le ciel à l'œil nu ou à travers les nombreux télescopes du site. Tel est l'objectif du Planétarium de Haute-Provence qui propose ainsi des séances d'une heure adaptées à son public grâce au travail de ses 6 médiateurs scientifiques professionnels. Menés par Fabien Marquet, directeur du Centre d'Astronomie, ils sont les pilotes de ce voyage à travers les étoiles.
Ça part évidemment de réunions d'équipe où on va imaginer un scénario et après on va tous apporter notre petite pierre, notre expérience, nos idées d'imaginer tel ou tel cheminement, telle ou telle image, telle ou telle vidéo. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. On va jusqu'à imaginer une bande-son qui va accompagner toute cette projection. On rentre vraiment dans le détail de la construction de ces séances et puis tout ça est complété avec une compétence qu'on a développée aussi de programmation en informatique parce que toute la partie sur la projection des constellations, tout ça est scripté. En fait, c'est du langage informatique. Donc tout ça ne se fait pas comme ça avec juste un petit joystick. C'est des lignes de commande qui sont imaginées à l'avance.
Avec 11 000 visiteurs par an, dont 5 000 scolaires et 70 lits à disposition, ce site au cœur d'un espace naturel de 10 hectares est labellisé station de nuit par l'Association française d'astronomie et revient cette année encore avec ses rendez-vous mensuels du 9 avril au 30 juin. En plus des traditionnelles soirées d'observation jusqu'au bout de la nuit, le planétarium élargit l'offre d'un centre d'astronomie déjà bien doté. Ce n'est pas Claude Beaulieu, président de l'association en charge de la structure, qui dira le contraire.
Il y a bien sûr des télescopes, ce qu'on appelle un T600, c'est-à-dire 60 cm, mais surtout on a un sidérostat, un grand amphi qui fait 60 places aussi, qui est unique en France et en Europe, qui permet d'observer le soleil en direct. Et nous, cet équipement planétarium, il est venu dédoubler cette grande salle avec aussi une capacité de 62 places. Sa double spécificité de ce planétarium, c'est le seul aussi, c'est le premier en France, qui est optomécanique et numérique, c'est-à-dire la boule à étoiles, c'est-à-dire qu'on voit le vrai ciel de Provence, on est dans le ciel le plus pur d'Europe quand même, donc ça serait dommage de ne pas voir le ciel en vrai. Et puis numérique, parce que projection de spectacle, bien sûr.
Entre haute technologie et environnement naturel privilégié, cette référence nationale de l'astronomie ludique mise énormément sur ce planétarium après 2 années plus que compliquées à cause de la crise sanitaire. Le directeur Fabien Marquet ne va pas par 4 chemins. Il faut qu'on réussisse pour voir l'avenir. La porte du centre d'astronomie est donc grande ouverte par le biais de son site internet pour tous les amoureux de l'immensité céleste.
Merci Christophe. Notez que la construction de ce planétarium a été financée par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le programme européen Alcotra et le Crédit Agricole pour au total un investissement de 2 200 000 euros.
Et si vous êtes plus histoire qu'astronomie, bien direction la place forte de Mont-Dauphin.
On connaissait ces fortifications, mais moins sa faune et sa flore. Pourtant, de nombreux espaces sont préservés et valorisés entre ces remparts. Mercredi prochain et le 27 avril, des visites seront proposées en partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux Aurore Valory.
C'est un lieu chargé d'histoire au patrimoine exceptionnel, mais Mont-Dauphin abrite aussi une biodiversité très riche. Plus de 80 espèces d'oiseaux, 21 de criquets et sauterelles, mais aussi 56 espèces de papillons ont été recensées lors d'un inventaire en 2016 dans le cadre d'un partenariat avec la LPO, souligne Manon Asséna, chargée de communication à la Place Forte.
L'aspect des fossés de Mont-Dauphin qui sont quand même de vastes espaces qui sont finalement, à part le circuit de visiteurs, mais qui est tracé, qui sont sinon plutôt livrés à eux-mêmes, entre guillemets. Ça permet aussi d'avoir, par exemple, typiquement des très grandes herbes qui permettent du coup la reproduction des insectes et qui permettent de nourrir les oiseaux, etc., etc. Ce qui, en fait, dans un village, finalement, est assez peu commun parce que d'habitude, on intervient plus en fait sur ces espaces verts.
Depuis plus de 8 ans, le Centre des Monuments Nationaux travaille sur cette gestion des espaces verts pour qu'elle soit la moins intrusive possible. Des hôtels à insectes, mais aussi des nichoirs pour les oiseaux ont été installés. Les agents ont été formés.
Par exemple, une fauche plutôt tardive pour laisser les herbes monter en fleurs et donc permettre la reproduction, etc., etc.
Pour valoriser cette richesse, la Place Forte propose depuis plusieurs années, à cette période, des visites faune et flore, explique Manon Asséna.
On est vraiment au printemps, la nature se réveille. Avant aussi qu'il y ait trop de passages de par les visites du monument, etc. Donc, mon collègue emmène le petit groupe sur un parcours choisi qui traverse différents milieu qui permet d'apercevoir donc différentes espèces. Et mon collègue est là pour expliquer un petit peu les espèces qu'on rencontre, donner des détails sur ces petits êtres vivants et expliquer un petit peu aussi les actions que nous, on continue à mettre en place pour sauvegarder cette biodiversité.
Des jumelles sont mises à disposition des participants pour permettre une meilleure observation. Quant au cadre de la visite, il n'est pas non plus oublié. Les interactions entre le monument et la faune sont valorisées.
Il y a des oiseaux qui vont, par exemple, faire leur nid dans certaines anfractuosités des remparts. On a créé une page sur notre site web qui reprend pas mal d'informations de la visite.
Mont-Dauphin qui place donc l'environnement au cœur de son patrimoine.
Merci Aurore. Notez que les 13 et les 27 avril, le rendez-vous sera donné à 10h devant la boutique du Centre National. De nombreuses animations sont prévues pendant les vacances scolaires avec des visites commentées, des fortifications et des bâtiments militaires. La Place Forte qui accueille toujours l'exposition Little Bighorn.
Alpes 1 Sport. Et direction le Brésil pour 3 vététistes alpins.
Les premières manches de Coupe du Monde prennent des accents d'Amérique latine. Direction donc Petropolis pour 3 locaux, Léna Géraud et Antoine Philippe, brillant sonnés tous deux. Et Stéphane Tempier, qu'a pensé ? Il touche l'élite de la discipline. Si les deux premiers visent le top 10, Stéphane Tempier lui donnera des coups de pédale sous sa nouvelle écurie, Rock Rider Racing Team.
Et puis Valentin Giraud, moine fêté comme il se doit à Orcières-Merlette.
Il sera présent demain pour célébrer sa carrière. À l'automne dernier, il avait annoncé la fin de son parcours professionnel, mais il n'a pas pour autant raccroché les skis. Approché par les coachs de Hyacinthe Deleplace, un skieur malvoyant de 32 ans, le haut alpin est devenu son guide. Une nouvelle aventure et un beau challenge plein de réussite avec 3 médailles d'or au championnat du monde paraski alpin et une médaille de bronze en descente aux Jeux paralympiques de Pékin. Ce samedi, il sera donc possible de s'entretenir avec Valentin Giraud-Moine dès 11h30 sur le parvis de l'Office de tourisme.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com.